Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici tout de suite les titres. Le Premier ministre grec accuse le président tchèque d'anti-européisme populiste. La République tchèque prépare une aide humanitaire pour la Libye. Et puis en hockey sur glace, la star Jaromír Jágr reprend en main le club de Kladno. Georges Papandréou ne semble pas avoir apprécié l'entretien accordé récemment par le président Klaus au quotidien Pravo. Pour le chef du gouvernement grec, cité par le quotidien Katimerini, Václav Klaus est un anti-européen bien connu qui désormais veut exprimer son anti-européisme populiste en affirmant que nous buvons ici de l'ouzo en passant du bon temps pendant que ce sont eux qui travaillent dur et ainsi de suite. Fin de citation. Dans l'entretien à Pravo, Klaus, tout en soulignant qu'il n'accusait pas les Grecs, avait estimé que c'était le droit de la Grèce de, je cite, « décider de consacrer plus de temps à boire de l'ouzo sous les cyprès, mais qu'elle ne pouvait néanmoins pas entrer dans une union monétaire avec l'Allemagne ». Bien que la République tchèque ne participe pas à la conférence internationale sur la Libye, elle suit les travaux de la conférence, selon une déclaration faite pour l'agence de presse Tcheteka par l'attaché de presse du gouvernement tchèque. D'après les autorités tchèques, cette absence ne change en rien la décision de la Tchéquie de participer à l'aide internationale à la Libye. Cette aide a été aussi l'un des sujets des travaux du gouvernement tchèque réuni au Conseil des ministres ce mercredi. Et d'après le porte-parole du gouvernement, Prague offrira à la Libye une aide humanitaire qui sera adaptée aux besoins de ce pays. Il s'agit notamment de livraison de matériel médical et aussi de l'aide à la reconstruction des infrastructures détruites par la guerre civile. Il existe désormais en République tchèque 4022 fermes écologiques, soit 500 de plus qu'en début d'année, selon les chiffres publiés ce jeudi par le ministère de l'Agriculture. L'année dernière, le nombre de ce type de fermes avait déjà triplé. Ceux qui pratiquent l'agriculture biologique cultivent désormais une surface supérieure à 480 000 hectares dans le pays. Le marché des produits bio a atteint en 2010 environ 2 milliards de couronnes tchèques. La célèbre mezzo-soprano tchèque Magdalena Kožená a annoncé qu'elle annulait tous ses concerts prévus en septembre à cause de problèmes de santé. C'est son manager, David Dietrich qui a fait part de cette décision à la presse, en précisant toutefois que ces problèmes n'étaient pas graves et pas liés aux cordes vocales de la cantatrice. Magdalena Kožená avait notamment des concerts prévus en Suisse et dans son pays natal à Brno. Du sport avec, je vous le disais en titre, du hockey sur glace et l'attaquant vedette Jaromír Jágr qui se lance à 39 ans un nouveau défi. Il a repris en effet la majorité du capital du club de sa ville natale, Kladno, et prépare l'équipe pour la nouvelle saison. L'équipe au sein de laquelle Jágr a débuté sa carrière dans les années 80 a été rebaptisée les Chevaliers de Kladno. Le club avait d'importantes difficultés financières et l'investissement de Jaromír Jágr pourrait lui permettre d'espérer un nouveau départ. En octobre, l'attaquant tchèque devra cependant commencer la saison de NHL aux États-Unis dans son nouveau club de Philadelphie. Un mot sur la météo avec vendredi un ciel qui devrait rester partiellement dégagé et des températures maximales comprises entre 22 et 26 degrés Celsius. Le bulletin vous était donc présenté par Alexis Rosenzweig et dans une poignée de secondes, c'est Anna Kubischta que vous retrouvez pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Au programme du jour, c'est la rentrée des classes ce 1er septembre en République tchèque. Quels sont les changements attendus cette année dans le système scolaire tchèque? C'est ce que nous vous dirons en début d'émission. Et puis, le très controversé directeur de la Galerie Nationale, Milan Knijak, quitte son poste après 12 années d'une gestion qui a souvent suscité la polémique. Changement de cap radical pour la galerie, son successeur est un économiste. Tout ceci, ce sera avant notre rubrique consacrée aux Tchèques célèbres et moins célèbres. C'est reparti. Après 2 mois de vacances estivales, environ 1,2 million d'enfants et d'élèves tchèques ont repris le chemin de l'école ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée. Ce début de nouvelle année scolaire est marqué par deux grandes nouveautés, des tests de connaissances pour les élèves de l'enseignement fondamental et les contrats avec les parents des élèves problématiques. Guillaume Narguet.
La principale des nouveautés présentées mercredi, veille de rentrée par le ministre de l'Éducation, touche les élèves qui arrivent à la fin du premier et du second cycle de l'enseignement fondamental, comme l'a expliqué Joseph Dobech.
Plusieurs nouveautés attendent en effet les élèves. La première est un projet pilote qui sera testé dans une centaine d'écoles à partir du mois de novembre. Il s'agit des tests sur ordinateur de mathématiques, de tchèque et d'anglais devant permettre d'établir une comparaison du niveau des connaissances des élèves des classes des 5e et 9e années de l'enseignement fondamental. À la fin de cette année scolaire, nous entendons réaliser un examen général dans tout le pays.
Cette nouveauté intervient pour harmoniser et standardiser d'ici à 2013-2014 le niveau et la qualité de l'enseignement fondamental à l'échelle nationale, chaque école étant en effet actuellement libre d'établir son propre programme et de choisir son contenu selon des objectifs nationaux établis par le ministère de l'Éducation. La mise en place de ces tests pour les élèves des 5e et 9e années s'explique également par le fait que, en République tchèque, l'enseignement fondamental, aussi appelé primaire, est divisé en deux cycles, la scolarité obligatoire durant 9 ans, généralement de 6 à 15 ans. Toutefois, à l'issue du premier cycle, dit inférieur, soit au bout des 5 premières années, les élèves les plus précoces et les plus doués, alors âgés d'une dizaine d'années, peuvent quitter cet enseignement fondamental pour rejoindre un établissement de type collège-lycée ou gymnasium en tchèque et suivre alors une formation secondaire de 6 ou 8 ans, à l'issue de laquelle ils passeront ensuite leur maturita, l'équivalent du baccalauréat. Les autres élèves, eux, poursuivent normalement le second cycle dit supérieur de l'enseignement fondamental avant d'entamer une formation secondaire de 3 ans vers l'âge de 15 ans. Chiffre étonnant, surtout comparé à la France, seul un quart environ des élèves tchèques suit une formation secondaire générale, les formations professionnelles ou spécialisées occupant une place beaucoup plus importante dans le système éducatif. Néanmoins, les centres d'apprentissage accusent pour cette année une baisse de 6% du nombre total de leurs élèves par rapport à l'année dernière. L'autre grande nouveauté de cette rentrée scolaire, qui n'est lui aussi encore qu'un projet pilote, ce sont les contrats avec les parents des élèves dont le comportement est considéré comme problématique. Ces contrats avec les parents, qui doivent également servir à réduire l'agressivité croissante dans les écoles, seront d'abord testés dans un peu plus de 30 écoles. Le ministre Joseph Dobesch, qui s'est inspiré des systèmes britanniques et allemands, précise leurs principes.
Au début de l'année, les élèves de chaque classe établiront avec leur instituteur les règles de comportement à respecter pendant l'année. Si un élève ne respecte pas une de ces règles, le problème sera dans un premier temps réglé par l'enseignant, la classe et l'élève lui-même. Si cela se répète une deuxième fois, la direction de l'école, l'instituteur, l'élève et ses parents signeront une sorte de contrat dans lequel seront précisément définis le problème de comportement, la manière de modifier ce comportement, les points sur lesquels doit travailler chaque partie, un calendrier de réunion. Enfin, si les choses ne s'améliorent toujours pas, les départements sociaux de la commune interviendront dans le processus de façon plus répressive.
Enfin, les quelques 20% des élèves qui ont échoué en mai et juin dernier lors des examens de la nouvelle maturita, l'équivalent du baccalauréat dont les épreuves étaient pour la première fois nationales, auront droit à des épreuves de rattrapage d'ici à la fin septembre. Il s'agira là également d'une grande nouveauté pour les bacheliers tchèques.
Je vous le disais en titre, c'est la fin d'une ère. Le directeur de la Galerie nationale, Milan Knija, quitte ses fonctions à compter de ce 1er septembre, après 12 ans à la tête d'une des plus importantes institutions culturelles de République tchèque. 12 ans de règne sur la Galerie nationale, ça laisse des traces, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le règne de Milan Knija ne laisse personne indifférent. C'est un bilan contrasté, donc, que celui de cet artiste et performeur, ennemi de l'État sous le régime communiste, et de fait plusieurs fois arrêté en raison de ses positions politiques. Pour certains, on lui doit d'avoir fait de la Galerie nationale une institution qui fonctionne et de l'avoir enrichi des œuvres de jeunes artistes. Pour d'autres, Milan Knijak a fait le vide autour de lui, renvoyant les experts et isolant la galerie des tendances artistiques européennes. Milan Knijak lui-même ne réfute pas ces accusations, mais au contraire en retire une certaine fierté.
J'en ai fait réussir à me débarrasser de personnes qui jouent aux experts, mais qui sont en réalité dépendants des tendances à la mode. Nous nous sommes en effet isolés de l'Europe parce que nous ne suivons pas ces tendances, mais que nous nous sommes efforcés au contraire de créer de nouvelles tendances. C'est le signe d'une indépendance et d'un effort pour créer quelque chose à soi. C'est ce que nous avons essayé de faire dans notre collection d'art contemporain. Nous avons voulu montrer en quoi l'art tchèque est particulier, ce qui est différent et nouveau par rapport à ce qui se fait ailleurs.
Catogan et oreilles percées, look de vieux pirate qui s'est un peu empâté mais n'a pas pour autant perdu la verve de ses années d'artiste rebelle opposé au régime communiste, tout ceci fait partie du personnage de Milan Knijak et alors que se fait le passage de relais, il n'épargne pas son successeur, Vladimir Russell, un économiste choisi en mai dernier par le ministre de la Culture, Jiří Besser. Il est clair depuis le début qu'il ne comprend rien à l'art et qu'il devra s'appuyer sur des experts qu'il ne saura pas choisir, fin de citation. Pas d'adoubement donc pour le nouveau directeur de la Galerie Nationale qui recueille aussi le scepticisme du monde de l'art. Pour certains artistes, rien de nouveau sous le soleil avec Vladimir Russell, comme le dit l'artiste Jiří David.
D'une certaine façon, c'est une nouvelle victoire pour Milan Knijak parce que M. Russell n'est qu'un nouvel exemple du fait qu'on ne fait pas d'audit économique et qu'on n'a pas l'intention de changer le contenu.
Jiří Skřivánek, rédacteur en chef de la revue Arts and Antiques, estime que le choix d'un économiste sans aucune expérience du monde de l'art est un fait quasi sans précédent.
Le fait que la Galerie Nationale va être dirigée par un manager et non par un professionnel de l'art est pour le moins inhabituel. Le ministre de la Culture lui-même, pour se justifier, n'a donné que Moscou comme exemple similaire.
Le ministre de tutelle Jiří Besser, issu du parti Top 09, un des membres de la coalition de droite au pouvoir, n'estime en tout cas pas qu'un expert en culture et en art soit nécessaire pour diriger la Galerie Nationale. En attendant, l'intéressé, Vladimir Russell, récupère une institution dont tout le monde attend de connaître la situation financière exacte, alors que celle-ci possède au moins 7 bâtiments à Prague dont il s'agit de mener à bien la gestion. Dans cette deuxième partie, nous passons à la rubrique bi-hebdomadaire, les Tchèques célèbres et moins célèbres. Dans la rubrique d'aujourd'hui, vous entendrez la deuxième partie de l'interview que Magdalena Hrozinková a réalisée avec Jiří Žák, comédien, traducteur et écrivain. Il est notamment l'auteur d'une série d'entretiens télévisés avec une dizaine de personnalités de la culture française, des acteurs, des réalisateurs et des écrivains. Cette fois-ci, il nous parle de ses rencontres avec Marlène Jobert ou encore Pierre Richard ou encore de l'amitié qui le rattache à la famille de Lino Ventura.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Bonjour, avec Jiří Žák, nous sommes assis dans sa loge au théâtre Pragois Divadlo na Vinohradech, non loin de la radio tchèque, dans ce même théâtre où joue l'épouse de l'ex-président Václav Havel, Dagmar Havlová. Par ailleurs, Jiří Žák devrait publier cette année un livre intitulé Divadlo podle Havla, le théâtre selon Havel. Il s'agit d'un entretien qu'il a réalisé avec le dramaturge Václav Havel. L'ancien président tchèque n'est pas l'unique célébrité que Jiří Žák a connue et interviewée. Dans les années 90, il a réalisé pour la télévision tchèque une série d'entretiens avec, entre autres, Jean Marais, Robert Hossein ou Robert Merle. L'une des rares actrices françaises qu'il a pu rencontrer était Marlène Jobert. Jiří Žák.
Marlène Jobert, což by určitě jako rozhlasačka.
Tourner avec Marlène Jobert n'était pas évident du tout. Vous êtes journaliste à la radio et vous savez bien qu'il n'y a rien de pire qu'un interlocuteur taciturne qui vous répond par oui ou non. Et c'était le cas de Marlène Jobert. Elle est compliquée et peu communicative. Une fois de plus, j'ai eu cette même impression avec elle, puisqu'elle ne joue plus et écrit des histoires pour enfants. Je l'ai invitée au Festival du film pour les enfants et la jeunesse à Zlín en Moravie. J'ai passé 3 jours avec elle et j'ai compris qu'elle était vraiment très introvertie et renfermée sur elle-même, mais c'est une femme gentille et belle.
La valise du petit Julien était prête depuis 2 heures déjà. et en attendant que sa grand-mère vienne le chercher, il écoutait un disque. Mais cette symphonie de Mozart ne calmait pas...
Un extrait du Mystère de l'homme gorille, un conte écrit et raconté par la silencieuse Marlène Jobert. Jiří Žák a fait une expérience similaire avec Pierre Richard, un des acteurs français les plus connus du public tchèque, Jiří Žák.
C'est les gens qui se font une fausse image des comédiens. Ils pensent que ce sont des gens qui débitent des blagues à tour de bras. Moi-même, je me souviens qu'un jour, j'ai assisté, un peu malgré moi, à une fête de mariage. On m'a assis à la table en me disant « Et maintenant, à toi de nous amuser ». J'étais choqué, car je ne suis pas un humoriste, je suis acteur, ce que les gens ont tendance à confondre. Cette histoire me revient à l'esprit quand je pense à Pierre Richard. C'est un homme cultivé, intelligent et triste.
Pierre Richard est uzavřený, smutný muž. Je to kultivovaný člověk, já ho znám.
Je le connais assez bien puisque Pierre Richard est un ami intime du scénariste Didier Kaminka, qui est mon propre ami. Un traducteur pragois, Sacha Yerie, raconte une histoire typique pour Pierre Richard. Il avait traduit en tchèque la pièce de Kaminka, La solitude d'un gardien de but, et invité Kaminka et Richard à Prague pour le spectacle. Je crois qu'ils se sont fait voler quelque chose et se sont retrouvés à la gendarmerie. Comme les gendarmes ne manifestaient aucun intérêt pour le comédien, Sacha Yerie, ne pouvant plus se retenir, leur a dit « Vous vous rendez compte que vous avez devant vous le grand blond avec une chaussure noire ?» Ils étaient très étonnés et ont rétorqué « Ah bon ? C'est lequel ?» Pierre Richard est resté très discret. Si vous le croisiez, vous ne le reconnaîtriez pas.
On vypadá strašně nenápadně. A vůbec, když ho potkáte, tak ho nepoznáte.
Le hasard a voulu que certaines interviews prévues par Jiří Žák, des rendez-vous déjà fixés, par exemple avec Gilbert Bécaud, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon, ne se soient jamais réalisés pour différentes raisons. Jiří Žák a pu rencontrer Alain Delon dans des circonstances assez particulières.
Il y a un certain temps de ça, j'ai traduit un livre sur Jean Gabin. Et à travers Jean Gabin, j'ai fait la connaissance de la famille de Lino Ventura, qui était déjà mort à cette époque-là. J'ai connu son fils, Laurent, et sa fille, Clélia. Nous sommes devenus amis. Un jour, ils m'ont invité dans la célèbre émission de télévision Vivement Dimanche, consacrée à Lino Ventura. C'était mon heure de gloire. En arrivant au studio, je suis passé à côté des portes des loges où étaient inscrits les noms des invités. Il y avait là Jean-Loup Dabadi, le scénariste des films de Lino Ventura. Sur une autre porte, il était marqué Charles Aznavour. Sur une autre, Jiří Žák. Et à côté de moi, il y avait Alain Delon, la famille Gabin et la famille Ventura. J'étais en bien bonne compagnie. C'est donc à cette occasion que j'ai rencontré Alain Delon. Nous nous sommes très bien entendus. Ce serait bien de l'interviewer, mais je me sens prêt à écrire plutôt un livre sur lui.
Jiří Žák a pu passer des moments en compagnie des vedettes du cinéma français, a réussi ce dont rêvent de nombreux cinéphiles et même de nombreux journalistes.
Le fait d'être tchèque a été peut-être un atout pour moi. Mes interlocuteurs connaissaient la République tchèque. Robert Hossein, par exemple, a tourné ici un film avec Marina Vladi. Mais ce qui m'a surtout ouvert des portes, c'était le fait que je ne sois pas journaliste. Jean Marais m'a dit « Je ne te parlerai pas si tu venais de l'auditoire, mais toi, tu viens de la scène, tu es mon collègue. »
La complicité entre comédiens dépasse les frontières, affirme Jiří Žák et raconte.
Je me souviens d'un moment très fort que j'ai vécu à Paris, au théâtre de la Porte Saint-Martin, avec un très bon comédien, Patrick Préjean. Il m'a fait visiter le théâtre et sur la scène, nous nous sommes mis à réciter, moi en tchèque et lui en français, les vers de Cyrano de Bergerac, rôle que nous avons tous deux interprété. En plus, sur la scène où Cyrano a été joué pour la première fois vers 1898, nous nous sommes sentis très proches. Voilà la magie du théâtre. On peut être divisé par la langue, tout le monde ne parle pas français, mais nous sommes tous des êtres humains, nous sommes comédiens et quelque chose nous unit.
Parmi la nouvelle génération d'acteurs, Jiří Žák a également ses favoris.
L'acteur de cette nouvelle génération qui m'intéresse le plus, c'est Benoît Magimel. J'ai traduit le film Le Roi danse, où il joue Louis XIV. En traduisant les dialogues, j'ai beaucoup travaillé, pour ainsi dire, ce personnage. J'ai observé sa façon de jouer et il m'a fasciné. C'est un acteur formidable. Il renoue avec la tradition du cinéma français. Sauf que ses prédécesseurs, comme les acteurs tchèques de l'époque, jouaient avec un certain pathos. Ces jeunes acteurs, comme Benoît Magimel, Vincent Cassel ou Mathieu Kassovitz, sont plus naturels, plus civils. J'aime aussi Jean-Hugues Anglade et beaucoup d'autres. Oui, je continue à suivre ces acteurs. Je les suis avec impatience.
Jean Anglade, ça me libi. Řada herců francouzských. Sleduju to napětí.
Comédien, traducteur et écrivain, Jiří Žák est inlassable et infatigable. Il s'apprête à écrire des livres sur Jacques Brel et Annie Girardot, la seule actrice française sur laquelle il a, paraît-il, envie d'écrire. C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver en podcast, mais également sous forme d'articles sur notre site internet le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.